Le médecin des pauvres, chapitre 27, un coup de feu. Quand les héros triomphants de cette nouvelle retraite des 10 000 eurent atteint les premiers plateaux du Jura, l'ordre de la marche subit quelques modifications et les montagnards ne s'astreignirent plus à former 3 pelotons distincts. Les pelotons de l'avant-garde et de l'arrière-garde se rapprochèrent et se confondirent avec le corps principal. Et la Cuzon, au lieu de marcher au centre, à côté du curé Marquis, prit la tête de la colonne, en compagnie de ce dernier, de Piédefer et de Garbaz. Alors seulement le capitaine put raconter au prêtre tous les détails de la merveilleuse expédition qu'il avait entreprise et menée à bien pour sa délivrance. Et malgré la gravité de la situation, le sourire vint plus d'une fois aux lèvres de Marquis, tandis que l'accusant lui peignait avec verve la garnison tout entière si complètement abusée par les 2 faux moines tombant dans une fausse embuscade. La crédulité parfaite et l'heureuse stupidité de la digne cantinière furent considérées par lui comme de véritables bienfaits de la Providence, et il remercia Dieu d'avoir réalisé en sa faveur la parole des livres saints « Ils ont des yeux et ils ne voient point ». Après avoir écouté ce récit, le prêtre interrogea l'accusant au sujet des événements accomplis au château de l'Aigle, et c'est à peine s'il put contenir l'ardente expression des sentiments qui le dominaient, en apprenant que le père de Raoul et la mère d'Églantine étaient vivants tous deux, et tous deux victimes depuis tant d'années de la féroce soif de vengeance d'Antide de Montaigu. « Ah » murmura-t-il, comme emporté malgré lui. « Je suis prêtre, du Dieu de miséricorde et de pardon. Et cependant, il me faut bien crier vengeance. Vengeance donc contre vous, Seigneur de l'Aigle, au nom des malheureux opprimés par vous, au nom du pays vendu par vous, au nom de nos frères trahis par vous. « Oui, vengeance, » répéta l'accusant, « vengeance éclatante et formidable, afin que le châtiment soit à la hauteur de l'infamie. »« As-tu pris un parti, Jean-Claude ?» demanda le curé Marquis. « Oui. »« Quel est-il ? Il faut que demain le château de l'Aigle ait cessé d'exister. Il faut qu'Églantine et sa mère soient au milieu de nous et qu'Antide de Montaigu, prisonnier, aille rendre compte de ses crimes au Parlement de Dôle. » qui lui réservera le bûcher des traîtres et le gibet des assassins. Quand attaquons-nous le château? Cette nuit même. Y trouverons-nous le traître? J'en doute, car si Richelieu nous a dit la vérité, il se dirige vers Besançon avec le comte de Guébriant. Mais peu importe, que le manoir disparaisse d'abord. Ensuite, si bien que se cache le misérable gentilhomme, nous saurons le retrouver, et s'il le faut, nous mettrons sa tête à prix. Les montagnards et leurs chefs suivaient en ce moment une vallée profonde et sinueuse, dont l'un des versants était ombragé par un bois de sapins très épais. Cette vallée aboutissait 2 lieues plus loin au val de la Chartreuse de Bonlieu. « Garbaz, » dit l'accusant, « capitaine, n'avons-nous pas de ce côté quelques fermiers qui soient de nos amis ?»« Oui, capitaine, nous avons François Drouin, dont l'un des fils sert dans les corps francs. » et qui a sa ferme sur la hauteur à 1/4 de lieue d'ici. « François Drouin a-t-il des chevaux ?»« Oui, capitaine. À ma connaissance, il en a 3. »« Eh bien, grimpe la côte et cours à la ferme. »« Oui, capitaine. Tu demanderas un cheval. Tu l'enfourcheras et tu t'en iras au plus rapide galop et par le chemin le plus direct jusqu'à la grande cascade. Là, tu continueras ton chemin à pied et aussitôt arrivé au trou des Gangones, tu raconteras au colonel ce qui s'est passé. » et tu le prieras de venir m'attendre, avec les hommes dont il dispose, auprès du sceau Gérard. « Oui, capitaine. Est-ce tout ?»« C'est tout. » Garbaz s'élança comme un chamois sur l'escarpement boisé, et bondissant de rocher en rocher, il en eut bientôt atteint le sommet. Là, il s'arrêta, et se dessinant comme une statue sur le ciel clair, il plongea un regard sur la vallée, dans laquelle la petite troupe s'avançait rapidement, ainsi qu'un long serpent aux anneaux tachetés de noir et de gris. Mais soudain, son attitude et son geste exprimèrent un profond effroi. Il fit un porte-voix avec ses 2 mains et il cria d'une voix retentissante qui, bien qu'affaiblie par la distance, parvint au fond de la vallée. « Capitaine, prenez garde à vous !» L'accusant leva vivement la tête pour chercher quel genre de péril pouvait le menacer. En même temps, et comme si les paroles du trompette avaient été un signal, un petit nuage de fumée blanche s'éleva parmi les sapins. La détonation d'un mousquet se fit entendre, et le chapeau du capitaine tomba percé d'une balle. « Bien visé, murmura l'accusant. Si je n'avais pas fait un mouvement, c'est la tête qui serait percée, et non le chapeau. » Cependant, Garbas avait saisi ses pistolets et fait feu de deux coups à la fois sur l'ennemi invisible. Mais l'expression manifeste de colère avec laquelle il remit ses armes à sa ceinture indiqua clairement qu'il avait manqué son but. Il se servit de nouveau de ses mains comme de porte-voix, et ses mots arrivèrent à l'accusant. « Le masque noir !» Quelques montagnards gravirent aussitôt, avec une rapidité prodigieuse, le versant de la vallée, et fouillèrent le bois de sapin, arbre par arbre et rocher par rocher. Mais toutes leurs recherches furent inutiles. « Capitaine, prenez garde à vous !» répéta Garbas depuis la hauteur. Et après avoir jeté ces paroles, il disparut pour aller s'acquitter du message dont le capitaine l'avait chargé. « Sur ma foi !» dit l'accusant en riant, quand les montagnards découragés furent revenus les uns après les autres. « Je commence à croire, comme nos paysans, que le seigneur de l'aigle pourrait bien être un peu le diable. » Et il se mit à chanter à demi-voix le premier couplet d'une sorte de ballade populaire dont le masque noir était le héros. Qui passe ainsi dans la nuit sombre? Tantôt sur le sommet du mont, tantôt dans le val rempli d'ombre? Est-ce un homme ou bien un démon? Dans le tourbillon qui l'emporte, quand au loin résonne le fer de son cheval plus noir qu'en fer, vous qui ne dormiez pas, fermez bien votre porte. Gentilhomme en son manoir, émanant dans sa chaumière, murmure une prière, en pâlissant, quand on parle le soir, du masque noir. Mais de quelle façon, homme ou diable, a-t-il pu nous échapper tout à l'heure? Franchement, je ne le comprends guère. Garbas nous le dira sans doute, répondit le curé marquis. Dans tous les cas, poursuivit l'accusant, il est au moins étrange qu'un titre de Montaigu, qui devrait être en ce moment sur la route de Besançon, soit ici. Rien n'est moins étrange. Cette vallée est presque son chemin pour retourner au château de l'Aigle. C'est vrai. Seulement, je suis étonné qu'il y retourne si vite. Peut-être se doute-t-il de ce qu'il menace? Je n'en crois rien. Il ignore que le secret du masque noir n'en est plus un pour nous. Enfin, que veux-tu, Jean-Claude? Attendons, puisque nous ne pouvons faire autrement. L'avenir seul nous garde la clé de toutes ces énigmes. L'accusant replaça sur sa tête son chapeau que la balle du masque noir avait troué, et la petite troupe, arrêtée un instant par l'incident que nous venons de mettre sous les yeux de nos lecteurs, reprit sa marche rapide. Expliquons sans tarder ce que l'accusant et le curé marquis ne pouvaient comprendre, c'est-à-dire la présence d'Antide de Montaigu sur le chemin que suivaient les montagnards. Ainsi que le cardinal l'avait dit aux deux chefs, le seigneur de l'Aigle était sorti du château, un peu avant l'heure de la fermeture des portes, avec le comte de Guébriant et messieurs de Longeville et de Villeroy. Il se trouvait encore dans le champ français au moment du hardi coup de main, couronné d'un si prodigieux succès qui mettait Richelieu au pouvoir du capitaine et du prêtre. Au lieu de se diriger sur Bletterand avec les troupes françaises, il avait immédiatement repris le chemin du château de l'Aigle, à cheval et suivi seulement de deux serviteurs sur lesquels il pouvait absolument compter. Il ignorait que le capitaine l'accusant eût découvert le secret terrible depuis si longtemps caché, le secret du masque noir. Mais il craignait vaguement que le cardinal, prisonnier des montagnards, ne se décidât à acheter sa liberté en révélant à l'accusant et à Marquis quel était le plus terrible ennemi des libertés franc-comtoises. Si cette hypothèse se réalisait, Antide de Montaigu verrait immédiatement la province entière se soulever contre lui. Les corps francs lui donneraient la chasse comme à une bête fauve et le traqueraient ainsi qu'on traque un loup enragé. Contre de tels événements, sinon probables du moins possible, Antide de Montaigu se dit qu'il ne trouverait de recours que derrière les bonnes et solides murailles de sa forteresse imprenable. Cependant, il avait du temps devant lui et il tenait à être promptement instruit des résultats de l'attaque dirigée contre Bletterand par les troupes françaises. Il laissa donc en arrière un troisième serviteur avec l'ordre de venir le rejoindre au point du jour, dans un endroit désigné à l'avance et voisin des premiers plateaux du Jura. Ce valet rendit à Antide de Montaigu un compte fidèle les faits accomplis pendant le reste de la nuit. Il lui dit l'attaque arrêtée par l'ordre même du cardinal. Il lui dit la retraite triomphante des montagnards, emmenant Richelieu dans leur rang. Il lui apprit enfin quel était le chemin suivi par la petite troupe qui se dirigeait vers la haute montagne. C'est alors qu'Antide de Montaigu conçut le projet de se placer en embuscade, à mi-côte de la vallée que nous connaissons, et de se débarrasser, par un heureux coup de mousquet, du plus dangereux de ses ennemis. Il choisit son poste avec une grande habileté. Entièrement masqué par les rochers et par les sapins, il pouvait ajuster l'accuson tout à son aise, et regagner ensuite, sans être à découvert un seul instant, le sommet du plateau où ses valets l'attendaient avec les chevaux, ce qui lui permettait de défier toute recherche et toute poursuite des montagnards. La présence de Garbas, dans les circonstances que nous avons dites précédemment, compromit la réussite de ce plan. Troublé par le cri d'alarme du trompette, Antide de Montaigu, dont le coup d'œil était juste et la main sûre au point de lui permettre d'abattre d'un coup de feu un aigle perdu dans l'espace, ne visa point avec assez de promptitude et de sang-froid pour envoyer sa balle droit au but. Nous savons cependant qu'elle ne s'en écarta que de bien peu de choses. Après avoir manqué son coup et essuyé le double feu du trompette, le seigneur de l'aigle, qui par prudence avait attaché son masque sur son visage avant de se mettre en embuscade, gagna rapidement l'endroit que Garbas ne pouvait voir et où l'attendaient ses chevaux et ses gens. Il se mit en selle, il piqua des deux et se dirigea à franc étrier vers la route étroite, mais suffisamment frayée, qui conduisait à Ménétrux-en-Joux et par conséquent au château de l'Aigle. Nous ne tarderons guère à le retrouver. Deuxième partie, chapitre 28. Au château de l'Aigle. L'accusant, en envoyant Garbas au trou des Gangones, avait calculé que si grande que fût la diligence de son messager, le colonel Varoz et Tristan de Champdivers ne pourraient arriver au Saut Girard que plus d'une heure après le moment où lui-même, avec le curé marquis et les montagnards, y serait parvenu. Sa surprise fut donc complète et profonde quand il vit que Varoz, au lieu de se faire attendre, était arrivé le premier. « Voilà qui tient du miracle, colonel !» s'écria-t-il. « Garbas a donc emprunté les ailes du vent pour aller vous prévenir ?»« Garbas n'est pas venu jusqu'au trou des Gangones, » répondit Varoz. « Il nous a trouvés ici. »« Mais comment se fait-il ? » ?»«
Nous étions avertis. »«
Avertis ?» répéta l'accusant. « Et par qui ?»«
Par moi, capitaine !» dit Maggie en se montrant tout à coup. Puis elle ajouta. Hier, j'ai suivi de loin les montagnards jusqu'au bois où ils se sont mis en embuscade, près de Bletterand. Et quand j'ai eu la certitude que vous étiez maître du château et de la personne du cardinal, je me suis mise en route pour venir apporter au colonel et à monseigneur Tristan la nouvelle de votre succès. Le bon Dieu m'a donné des forces. J'ai marché toute la nuit sans m'arrêter, abrégeant ma route par des sentiers que je connais. Et enfin, je suis arrivée au trou des Gangones presque au point du jour. Je vous laisse à penser, capitaine, avec quelle joie j'ai été accueilli. » L'accusant serra dans ses mains les mains de la vieille femme. « Alors, reprit Varoz, comme c'était mon chemin de passer au Saut Girard pour revenir au trou des Gangones, et comme d'ailleurs il nous semblait vraisemblable que tu viendrais tenter sans retard l'attaque du château de l'Aigle, nous sommes venus t'attendre ici. Le message dont Garbas était chargé pour moi nous a prouvé que nos conjectures étaient justes.
« Merci de m'avoir deviné, colonel, » répondit l'accusant. « Je croyais avoir une nouvelle à te donner, » continua Varoz, « mais j'ai su par Garbas que tu étais instruit avant nous. »«
De quoi, colonel ?»«
Du retour d'Antide de Montaigu. » »«
En effet, » dit le capitaine en souriant et en montrant à Varoz le trou fait par la balle dans son chapeau. « Le masque noir a pris soin de me donner de sa propre main une preuve de sa présence. » Mais j'espère bien ne pas demeurer en reste de politesse avec lui. Maintenant, colonel, parlons de choses sérieuses. Du siège du château, n'est-ce pas?
Oui.
Que décides-tu?
C'est ce que nous allons voir tout à l'heure.
Le seigneur de l'Aigle a-t-il beaucoup de monde avec lui?
Oui, car outre les hommes de la garnison, une bande de 250 gris est arrivée ce matin.
Vous en êtes sûr?
Parfaitement sûr.
Après ton départ, j'avais donné à 4 de nos montagnards, vêtus en paysans, la mission de surveiller la citadelle et de venir nous rendre compte du moindre mouvement inaccoutumé. L'arrivée de cette bande de gris prouve jusqu'à l'évidence qu'Antide de Montaigu est sur ses gardes. Un renfort de 250 hommes, dans une citadelle aussi formidablement défendue par la nature que le château de l'Aigle, équivaut à plus de 2000 hommes en rase campagne. C'est exact. Il devient indispensable de réunir la meilleure partie de nos forces. Ce sera un retard. Peu important. Nous allons expédier à l'instant des messagers dans toutes les directions. Ce soir, nous aurons autour de nous 1200 ou 1500 hommes. Sera-ce suffisant? Je l'espère. 1200 montagnards valent plus que 3000 gris et suédois. Et nous attaquerons? À la nuit tombante. Il faut que les renforts arrivent et que nos hommes, épuisés par les fatigues d'hier et de cette nuit, puissent prendre un peu de repos. Des ordres furent donnés sans retard, et une vingtaine de montagnards se dispersèrent dans les campagnes environnantes, munis de ces trompes de bergers dont les sons aigus, répétés de certaines façons, servaient de signal pour faire prendre les armes à tous les soldats des corps francs. Un campement provisoire fut alors installé auprès du sous-gérard. Des feux furent allumés pour préparer les vivres apportés du trou des gangones par les hommes du colonel. On plaça des sentinelles afin d'éviter toute surprise, et après un repas rapide, les montagnards s'enveloppèrent dans leurs manteaux, s'étendirent sous l'abri des rochers et des sapins, et ne tardèrent pas à goûter un repos bien nécessaire pour les préparer à des fatigues nouvelles. La nuit tombait. Les renforts attendus étaient arrivés successivement. 1500 montagnards environ se trouvaient réunis dans le vallon d'Ilay. Tous, depuis les 3 chefs jusqu'au dernier soldat, étaient animés d'une profonde ardeur de haine et de vengeance. Tous comprenaient qu'il ne s'agissait point ici d'une de ces vulgaires attaques, d'un de ces combats sur lesquels l'habitude les avait blasés, mais qu'un grand acte de justice allait s'accomplir, et que ceux qui succomberaient dans la lutte mourraient, non pas victimes du hasard des batailles, mais martyrs d'une sainte cause. Le curé marquis avait passé la journée entière à recevoir la confession de ses soldats et à les absoudre, comme le firent plus tard un grand nombre de prêtres sur les champs de guerre de la Vendée. Au moment où le signal du départ allait retentir, Marquis, toujours revêtu de sa robe rouge, monta sur un quartier de rochers, du haut duquel il dominait la petite armée, et il donna, du cœur, des lèvres et de la main, une absolution et une bénédiction suprême à tous ces hommes pressés autour de lui, et dont beaucoup, peut-être, allaient mourir. Puis l'accusé cria « En avant !» La troupe s'élança silencieusement. Il était nuit close depuis plus d'une heure, au moment où les montagnards, dont la présence ne se trahissait par aucun bruit, enveloppèrent le château, dont les masses sombres se détachaient à peine sur le ciel faiblement éclairé par la lune, encore caché derrière les cimes neigeuses des pics les plus voisins. La terrible citadelle semblait endormie, ou plutôt abandonnée. Le pas mesuré des sentinelles ne foulait point les remparts. On entendait d'autres bruits que les soupirs du vent passant dans les créneaux et se heurtant aux angles des tours, et le grondement affaibli des torrents lointains. Alors, près de l'entrée du premier pont-levis, un clairon sonna lentement une lugubre fanfare, dont tous les échos des vieux murs répétèrent les notes menaçantes. Ensuite, après un silence, une voix s'éleva dans la nuit. Et voici ce que disait cette voix. « À toi, Antide de Montaigu, comte et seigneur de l'Aigle, et l'homme au masque noir, le curé Pierre Marquis, le colonel Jean Varose et le capitaine Lacuzon, tous les 3 chefs de la montagne. Antide de Montaigu, comte et seigneur de l'Aigle, 3 fois traître et 3 fois parjure. Tu as vendu la Comté Franche à la France et tu as conspiré la perte de ses défenseurs en jurant de les perdre par des pièges infâmes et par l'assassinat. En attendant l'arrêt du Parlement qui te condamnera à mourir du supplice des assassins et des traîtres, nous, chefs de la montagne, nous te déclarons félon et hors la loi. Nous ordonnons que ton château soit détruit par le fer et par le feu, sans en exempter la plus haute tour. Nous ordonnons que tu sois appréhendé au corps pour être conduit à Dôle, mort ou vif, et livré au bourreau qui te réclame. Et, comme chef de la montagne, nous avons signé tous les 3 cette déclaration et ces ordonnances. Pierre Marquis, prêtre, le colonel Jean Varose, Jean-Claude Prost, le capitaine accusant. J'ai dit. La voix se tut. Le clairon de Garbas fit retentir une nouvelle fanfare, plus lugubre, plus menaçante encore que la première. Quand la dernière note se fut éteinte, la voix bien connue d'Antide de Montaigu se fit entendre sur le rempart avec une intonation vibrante et railleuse et répliqua ces mots insultants. « À vous qui vous donnez le titre de chef de la montagne. À toi, Pierre Marquis, mauvais prêtre et mauvais soldat. À toi, Jean Varose, vieux soudard édenté, dogue hargneux qui ne peut plus mordre. À toi, Lacuzon, chef d'une poignée de bandits rebelles. Moi, le seigneur de l'aigle, moi, l'homme au masque noir, je réponds que je vous défie et que je vous ferai pendre tous trois au sommet de la tour de l'aiguille. J'ai dit. » Un morne silence accueillit cette terrible réponse, mais ce silence ne dura que la dixième partie d'une minute. Feu ! Cria Antide de Montaigu. Feu sur les manants qui osent venir attaquer l'aigle dans son aire. Aussitôt, un serpent de feu sembla courir sur les murailles du château. Les échos des vallées répétèrent la terrible détonation de 300 coups de mousquet tirés à la fois, et Lacuzon et Garbas, qui se trouvaient auprès du pont-levis, furent enveloppés dans un ouragan de flammes et de fumée. Par un hasard presque miraculeux, les balles jaillissant de toutes parts se croisèrent autour d'eux sans les toucher. « À l'assaut !» dit alors le capitaine d'une voix éclatante en brandissant la hache qu'il tenait à la main. « À moi, mes montagnards !» Quittons pour un instant les assiégeants et les assiégés, les chefs de la montagne et le seigneur de l'aigle. Retournons de quelques pas en arrière et rejoignons Églantine, que nous avons abandonnée au moment où le fantôme blanc l'emportait évanoui entre ses bras comme un avare emporte son trésor. Au prologue de ce livre, nous avons pénétré avec le médecin des pauvres dans la tour de l'aiguille. Nous avons passé sous cette voûte basse sur laquelle il devait laisser l'empreinte de la main sanglante. Nous avons gravi l'escalier de 21 marches qui conduisait au premier étage. Enfin, nous avons franchi le seuil de cette pièce circulaire occupant toute la largeur de la tour. Nos lecteurs se souviennent sans doute que le seigneur de l'aigle, pour la nuit sinistre du 17 janvier 1620, avait fait recouvrir de tapisseries les murailles, le plafond, les embrasures des fenêtres, la cheminée et jusqu'au plancher. Afin qu'aucun indice, aucun souvenir ne puisse guider les recherches de Pierre Prost, si jamais ce dernier essayait de porter la lumière au milieu des ténèbres épaissies à dessein autour de lui. Le masque noir voulait envelopper la naissance d'Églantine dans les voiles d'un impénétrable mystère et rendre impossible, dans l'avenir, tout rapprochement entre la mère et la fille. Mais le hasard ou la providence en avait décidé autrement. Et l'Églantine de diamant du médaillon remis par la malheureuse femme au médecin des pauvres avait été l'étoile tutélaire qui devait conduire à un port inattendu ces naufragés de la vie et jeter l'enfant de Pierre Prost entre les bras de Blanche de Mirbel. Cette dernière, au moment où elle éprouvait la joie immense et inespérée de retrouver sa fille qu'elle croyait à tout jamais perdue pour elle, était une femme jeune encore, puisqu'elle n'atteignait pas sa 40e année. Seulement, les tortures physiques et les angoisses morales de sa longue captivité avaient flétri sa figure bien longtemps avant l'âge, sans effacer cependant les derniers vestiges de cette miraculeuse beauté qui jadis avait fait battre le cœur de Tristan de Champdivers. Le visage de Blanche était devenu d'une pâleur uniforme et livide, marbré de tons bleuâtres autour des yeux, qui semblaient agrandis, et dont le regard, autrefois si doux, offrait maintenant une expression étrange et parfois égarée. La malheureuse femme n'avait point perdu cette chevelure splendide, dont les tresses innombrables tombaient jadis jusqu'à ses talons, ainsi qu'un manteau de velours sombre. Seulement, ses cheveux magnifiques, tout en conservant leur soyeuse épaisseur, étaient devenus d'une blancheur de neige et ruisselaient comme des fils d'argent sur ses épaules et sur sa poitrine amaigrie. Peut-être nos lecteurs se sont-ils étonnés déjà de l'espèce de liberté relative dont jouissait la prisonnière, à qui le seigneur de l'aigle permettait de se montrer sur la plateforme qui couronnait la tour de l'aiguille et sur cette partie de la terrasse dont une grille constamment fermée défendait l'approche. Cette liberté avait été conquise en quelque sorte par Blanche de Mirbel, 5 ou 6 ans après l'époque à laquelle sa captivité avait commencé. à la suite d'une maladie assez longue et pendant laquelle le délire s'était emparé d'elle à plus d'une reprise, la pauvre femme avait eu l'idée de feindre une folie douce et continuelle, un apparent dérangement des facultés intellectuelles, qui, sans la pousser à des actes de violence ou même de démence, ne lui laissait ni le souvenir de son nom, ni la mémoire de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle avait souffert. Elle faisait flotter ses cheveux, elle s'enveloppait dans les draps de son lit comme dans un voile long et flottant, et elle marchait ainsi pendant des heures entières dans la chambre qui lui servait de prison, tout en répétant d'une voix lente, basse, continue, les couplets de quelques ballades populaires avec lesquelles on avait bercé son enfance. Antide de Montaigu, convaincu que cette folie n'avait rien de simulé, désireux d'ailleurs d'augmenter par tous les moyens possibles l'atmosphère de terreur vague qui flottait autour des donjons du château de l'Aigle, se dit que les apparitions d'un fantôme enveloppé dans son suaire et se montrant parfois sur le sommet de la tour de l'aiguille ou parmi les arbres de la terrasse donneraient un merveilleux cachet de réalité aux légendes fantastiques qui commençaient à s'accréditer dans le pays. C'est à ces causes que Blanche de Mirbel dut devoir les limites de sa captivité singulièrement élargies. Elle n'avait pas la liberté, mais au moins l'air et le soleil ne lui manquaient plus.